20h, 21h. Georgie. Flavie Flamand sur RTL.
Et ce soir, notre jour J est le 17 août 1996. Claudie André-Déhé devient la première femme cosmonaute française à aller dans l'espace.
Madame, monsieur, bonsoir. Le rêve de Claudie André-Déhé est donc devenu réalité cet après-midi à 15h17 exactement, quand la fusée russe a décollé de la base de Baïkonour. Tout s'est déroulé sans l'ombre d'un problème. La mission Cassiopée doit durer 16 jours.
Nous sommes donc le 17 août 1996 à Baïkonour, au Kazakhstan. Il est 15h17 et 17 secondes. Les moteurs du lanceur Soyouz sont allumés. La fusée, qui pèse 360 tonnes, décolle du pas de tir sous des applaudissements nourris. À son bord, dans un espace confiné, l'ingénieur Alexandre Yurevitch Kaleri, le commandant Valery Grigorievitch Korzoun et Claudie André-Déhé. À 39 ans, l'astronaute française entre dans l'histoire et devient la première femme française à aller dans l'espace. Le lancement est parfait. Dans deux jours, la capsule viendra s'amarrer à la station spatiale orbitale russe Mir pour une mission de 16 jours appelée Cassiopée. De là-haut, Claudie André-Déhé dira que le spectacle de la Terre est mille fois plus beau que ce qu'elle avait pu imaginer et que c'est le rêve de sa vie qui se réalise. Pourtant, il s'en est fallu de très peu pour qu'elle passe à côté, car quelques jours avant, Claudie André-Déhé a failli voir s'écrouler ses ambitions et rester sur Terre. Portrait ce soir d'une pionnière, d'une femme engagée, d'une étoile, décollage immédiat. Bonsoir à tous, bienvenue dans Jour J.
20h, 21h, Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Claudie Agnoret, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes avec nous sur RTL jusqu'à 21h. Vous êtes astronaute à l'Agence Spatiale Européenne, ainsi qu'au CNES, le Centre National des Études Spatiales. Est-ce que l'on se remet, Claudie Agnoret, de telles émotions? Est-ce qu'on peut vivre, je dirais, intensément sur Terre quand on a vécu la magie de l'espace?
On a été effectivement très privilégiés à vivre cette magie des vols spatiaux. J'ai eu la chance d'en faire deux. Et puis ensuite, j'ai eu plein d'opportunités et d'aventures tout aussi extraordinaires au sol. Alors peut-être j'avais besoin de me les créer, de les saisir pour donner autant de densité que celle des missions spatiales.
Parce que finalement, les émotions que vous avez ressenties, que ce soit dans Soyouz ou sur la station Mir, on y reviendra, les émotions que vous avez ressenties dans l'espace, on est bien d'accord qu'elles sont sans commune mesure avec celles que l'on peut ressentir lorsque l'on a les pieds sur Terre?
Oui, bien évidemment, se trouver en orbite dans la station à 400 km, avoir la possibilité de découvrir la Terre par le hublot de la station et de la voir, non pas tout entière, mais au moins dans un grand tiers de sa surface, sa rotondité, sa beauté, d'avoir son corps complètement libéré de la force
pesanteur.
De gravité, donc d'être en apesanteur, tout ça c'est des sensations qu'on ne peut pas avoir au sol. Et nous ne sommes que 575 privilégiés à avoir vécu ces moments tout à fait fantastiques.
C'est la raison pour laquelle on vous remercie d'être là ce soir. Vous êtes la première femme française à être allée dans l'espace. Est-ce que vous avez ouvert la voie à de nombreuses vocations, je dirais, en prouvant que oui, en fait, c'était possible?
Oui, vous avez raison. Je ne m'en suis pas aperçue personnellement quand j'ai candidaté, quand j'ai fait la mission. Oui. Mais par contre, effectivement, le regard des autres au retour et la suite où on m'a demandé d'intervenir ou d'accompagner des jeunes femmes est quelque chose qui a effectivement marqué. Et aujourd'hui, on est dans une phase de nouvelle sélection de l'Agence spatiale européenne pour prendre la suite de Thomas Pesquet, de Samantha, les astronautes de 2008. Et j'ai eu effectivement beaucoup de messages de jeunes femmes qui m'ont dit « Vous m'avez donné l'audace de remplir mon dossier de candidature, donc oui, pourquoi pas ?»
Vous allez nous raconter tout ça. Vous allez vous replonger également ce soir dans vos souvenirs, nous raconter ce grand jour, ce 17 août 1996, mais aussi les préparatifs. Grâce à vous, on va décoller justement. À quelle vitesse la fusée décolle-t-elle ?
La vitesse sur le pas de tir, c'est à Baïkonour, au cosmodrome au Kazakhstan. Elle est vitesse zéro. Dirigé sur son pas de tir, et on doit atteindre une vitesse de 28 000 km/h.
En l'espace de
8 minutes 45.
Voilà, tout ça, c'est dit, et ce sera dans un instant sur RTL. On va vivre aussi, grâce à vous, ce que le commun des mortels n'a jamais vécu, c'est-à-dire le quotidien en orbite. A tout de suite dans Jour J sur RTL.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Ce soir, Georgie vous transporte dans le temps et dans l'espace. Nous sommes le 17 août 1996 et on décolle avec Claudie Yenioret, que l'on a connue à l'époque, hein, alors sous le nom de Claudie André Dehé, direction la station Mir à bord de Soyouz. Claudie Yenioret, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes avec nous jusqu'à 21h. À quel moment est-ce que vous avez rêvé d'aller dans l'espace? Parce que vous aviez à peu près 12 ans hein, en 69 quand vous avez vu les premiers pas de l'homme sur la Lune.
C'est ça, il y a un petit peu de temps entre le moment du rêve, où on construit le rêve, où on nourrit son imaginaire.
Qu'on a tous fait, hein, ce rêve. Hein.
La génération Apollo, en tout cas, au mois de juillet 1969. Ouais. Je pense que ça a fasciné des millions, des centaines de millions d'humains. Donc ça, c'était le début, la petite graine du rêve. Ensuite, on la nourrit, son imagination, sa connaissance, sans penser pouvoir être un astronaute un jour. Et puis, à un moment donné, l'opportunité se présente. Pour moi, c'était, étant médecin à l'hôpital Cochin, cet appel à candidature du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, qui recherchait des astronautes scientifiques. Donc, je correspondais aux critères qui étaient demandés. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, maturation de cette idée, de ce rêve, l'opportunité, et puis la disponibilité d'y aller, et puis un entourage qui ne s'y est pas opposé, ce qu'on peut parfois dire de certaines audaces que peuvent avoir des jeunes femmes en particulier. Voilà, j'ai demandé un dossier, je l'ai rempli et j'ai passé la sélection.
Et alors, quels sont les domaines dans lesquels on peut poser sa candidature pour être astronaute? Parce que c'est parce que vous étiez médecin et que vous étiez rhumatologue que vous pouviez mener à bien des missions, on y reviendra dans l'émission, vous avez pu candidater. Quels sont les autres secteurs d'activité? Moi, je vais pas recevoir un jour une proposition pour m'envoyer en l'air, enfin, pour partir dans l'espace.
Alors, partir dans l'espace... À une époque, je dirais, avant 1985, la sélection à laquelle j'ai participé, c'est vrai que c'était un profil pilote, militaire, armée de l'air.
Voilà.
Chevalier du ciel, je dirais. Puis ensuite, en 85, les profils étaient déjà ouverts à des chercheurs, ingénieurs, civils, militaires et pilotes. C'est pour ça que j'ai profité de cette opportunité. Aujourd'hui, il y a une sélection en cours de l'Agence spatiale européenne. Les critères, c'est un bac plus 5 dans des domaines de recherche, d'ingénierie, mais quel que soit le domaine. Vous pouvez être vulcanologue, vous pouvez être médecin, vous pouvez être chercheur dans un autre domaine, ingénieur d'aéronautique ou de cybersécurité, et donc très très ouvert, pilote également, et puis d'avoir déjà un petit peu d'expérience professionnelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas vous prendre juste à la sortie de l'université, mais quand vous avez déjà montré votre capacité à prendre des tâches complexes sur le plan opérationnel. Donc c'est très largement ouvert. Après, ça vous amène à avoir plutôt 27-28 ans pour démarrer tout ça.
C'était votre cas, vous, quand vous avez candidaté?
Absolument, je suis née en 57, donc j'étais... Et à cette époque-là, en fait, je me souviens d'une limitation de 27-37 ans. Et aujourd'hui, en fait, même au-delà de 37 ans, on espère bien sûr qu'un astronaute va avoir une carrière d'une quinzaine d'années. Parce que voilà, on ne va pas vous entraîner pendant 10 ans pour faire une mission courte. Donc aujourd'hui, ce sont des carrières chez les astronautes professionnels. Et donc, pour cette sélection en cours, il y a des profils qui sont plus âgés que ceux qu'on rencontrait à l'époque.
Voilà, parce que vous aviez 39 ans, hein, vous, quand vous êtes allé dans l'espace la première fois.
La possibilité, mais je crois que tous les dossiers ont été envoyés, c'est trop tard.
D'accord, et de toute façon, je serais beaucoup, beaucoup trop vieille. Et peut-être trouillarde. Est-ce que vous pensez qu'il faut être sacrément, avoir les nerfs solides pour pouvoir partir dans l'espace?
Je crois qu'au départ, il faut déjà avoir ce rêve, ce désir, cette résonance en soi pour avoir l'audace de candidater. Ensuite, il faut avoir la patience, la détermination, le travail, la bonne condition physique pour passer les tests de sélection et être sélectionné. Avoir bien évidemment les compétences cognitives, je dirais, intellectuelles et opérationnelles pour le métier. Et l'entraînement est long, c'est plusieurs années, donc on se sent prêt individuellement, avec ses compétences qu'on a élargies, et puis prêt aussi dans un équipage, en sachant comment travailler ensemble. Donc, on est prêt, on a confiance, et on est impatient d'aller au bout de son rêve.
Et on a du temps, j'imagine, de préparatif aussi. Quand avez-vous appris que vous alliez partir? Combien de temps avant?
Dans la sélection à laquelle j'ai fait partie, on était à cette époque où il y avait toujours deux équipages entraînés pour une mission. Ce qu'on appelle un équipage doublure et puis l'équipage numéro un, celui qui part. Donc en fait, moi j'ai été sélectionnée en 85. J'ai complété ma formation de médecin rhumatologue par une thèse de neurosciences pour être ce chercheur sur lequel on allait mettre la responsabilité de la mission. Et je suis partie à l'entraînement en 92 à la Cité des Étoiles près de Moscou. D'abord comme cosmonaute doublure de celui qui allait devenir mon mari.
C'est ce que j'allais dire.
Qui explique que je m'appelle Claudie Yenioret aujourd'hui. C'était Jean-Pierre Yenioret. Et donc une préparation pour cette mission. Tout s'est bien passé pour lui. Il est parti en 93 pour cette mission. Et donc ensuite, je suis passée du statut de candidate astronaute à celui d'astronaute, assignée à une mission, la mission Cassiopée.
Alors justement, les préparatifs, ça consiste en quoi et ça a lieu où ?
L'entraînement, en ce qui nous concernait à cette époque, avait essentiellement lieu à la Cité des Étoiles, près de Moscou, puisqu'on partait avec la fusée Soyouz, la capsule Soyouz, au sommet de la fusée Soyouz, pour rejoindre la station russe, la station Mir. Donc la plus grande partie de l'entraînement était là-bas. Ensuite, j'ai eu l'occasion de découvrir la partie américaine pour la Station Spatiale Internationale, mais pas en 96. Donc c'est départ vers la Cité des Étoiles, c'est dans la banlieue de Moscou, c'est apprentissage intensif du russe, parce que tout est en russe, c'est acquisition des compétences multiples qui vont vous être nécessaires, à la fois sur les systèmes complexes, sur lesquels vous devez vous sentir en capacité de les gérer. Donc beaucoup de cours théoriques et des heures passées en simulateur.
Alors, d'entraînement physique aussi.
Et puis l'entraînement physique, parce qu'il vous faut une bonne condition physique, bien évidemment. Vous allez avoir à supporter les facteurs de charge, de l'accélération pour le départ, ensuite de maintenir votre corps en bonne condition en situation de microgravité. Donc effectivement, entraînement physique quotidien, régulier, au sol et puis à bord.
Et simulateur, c'est pour être à l'aise, finalement, dans la station.
Voilà, simulateur, c'est à la fois des simulateurs de la capsule avec laquelle vous allez faire le voyage, et puis des simulateurs de la station où vous allez apprendre à la réparer, la maintenance, et puis surtout opérer tous ces systèmes expérimentaux qui sont le cœur de votre programme scientifique.
Est-ce que vous avez simulé aussi le décollage, ou est-ce que les sensations, vous les avez découvertes sur le moment même ?
Voilà une question à laquelle on peut répondre de deux façons. On ne peut pas simuler complètement le décollage, on ne va pas faire partir la fusée pour du faux, comme diraient les enfants. Par contre, vous savez que vous allez avoir des accélérations, puisque vous passez d'une vitesse zéro, trois étages de propulsion pour atteindre les 28 000 km/h, avec des facteurs de charge qui sont à 4G, quand tout se passe bien. Et ça, vous vous y entraînez en centrifugeuse. Il n'y a pas le bruit, il n'y a pas les vibrations, il n'y a pas toute l'émotion de ce moment magique.
Ouais, c'est pas vécu, quoi. Évidemment. Alors, avant le décollage, Claudie Aigneret, vous écoutiez ça. Jour J revient dans un instant sur RTL. À tout de suite.
Jour J, Flavie Flamand sur RTL.
Soyez les bienvenus dans Jour J qui ce soir vous met la tête dans les étoiles avec Claudie Aigneret, une femme entrée dans l'histoire car elle est la première française à être allée dans l'espace. C'était le 17 août 1996 à Baïkonour. Mais Claudie Aigneret, ce rêve a bien failli ne pas se réaliser. Qu'est-ce qui s'est passé 10 jours avant ?
Alors, dans les 15 jours qui précèdent un vol, vous partez à Baïkonour, au Kazakhstan. Phase de quarantaine pour justement être à l'abri de toute contamination potentielle, les derniers entraînements et les derniers examens médicaux. Et là, effectivement, mon commandant d'équipage, à l'époque, Gennady Manakov, présente une petite anomalie sur son électrocardiogramme. Il partait pour une mission de longue durée, donc tombe la sanction. Il ne pourra pas partir à quelques jours du vol et ne pourra pas partir non plus le deuxième membre d'équipage qui est l'ingénieur de la mission, parce qu'ils se sont vraiment entraînés ensemble sur des tâches très complexes et donc il y avait mon sort en balance, troisième membre d'équipage.
Parce que, pardonnez-moi, mais en préparant l'émission, j'ai cru comprendre effectivement que lorsque l'un des membres d'une équipe a affiché une problématique, c'était finalement la sanction pour toute l'équipe.
A priori, oui, classiquement, ça devrait se passer comme ça. Là, c'était un vol avec un contenu scientifique très particulier pour lequel j'avais été hyper formée, où j'avais les compétences particulières sur ces sujets de sciences du vivant et d'interaction avec la communauté scientifique. Donc, j'étais à ce moment-là la bonne personne et celle qu'il fallait envoyer. Donc, je suis restée membre d'équipage et je suis partie avec Sacha et Valérie, que je connaissais très très bien parce qu'on est tous ensemble pendant de nombreuses années à la Cité des Étoiles.
Racontez-nous ces heures qui précèdent le décollage de Soyouz.
Je dirais que ces tout derniers jours, c'est vraiment le moment où vous devenez, et vous voyez que ça peut arriver jusqu'à la fin, vous devenez l'équipage qui va partir. Ouais. Avant, vous êtes un équipage parmi d'autres qui s'entraînent. Et là, ce séjour à Baïkonour, cette quarantaine, ces rituels qui vont accompagner jusqu'au pied de la fusée le départ de l'équipage, sont ce qui vous permet... Voilà, d'endosser.
C'est ça.
le scaphandre et tout ce comportement et cette responsabilité d'être l'équipage qui va partir.
On vous voit sur les images, vous êtes rayonnante. Vous êtes, mais vraiment, vous avez un sourire qui vous dévore le visage. On sent qu'il y a toute la gravité du moment, mais on sent aussi qu'il y a, je sais pas, il y a comme une éclosion à ce moment-là sur les images quand on vous regarde. Qu'est-ce que vous ressentez ?
Tout à fait, vous avez raison. Et je crois que si vous regardez tous les premiers vols des différents astronautes, vous retrouverez ce souvenir-là. Et il me frappe à chaque fois que je vois un de mes collègues partir. C'est effectivement, ça fait partie de ce rêve. C'est si fort, ça a été imaginé, c'est fascinant, c'est magique. On pense que c'est à peine possible. Et là, ce jour-là, c'est nous qui montons ce petit escalier, le petit ascenseur qui va nous amener à la capsule Soyouz qui est au sommet de la fusée. Et oui, c'est l'aboutissement. Alors, éclosion, peut-être. Mais en tout cas, l'aboutissement de quelque chose qui est longuement préparé, mûri et magique, parce qu'on est si peu nombreux à le vivre.
Et c'est plus fort que tout, c'est-à-dire que ça fait plusieurs jours que vous n'avez pas vu votre entourage proche, hein, dans ces moments-là. Vous êtes mis en quarantaine.
Les derniers jours, voilà, c'est une quarantaine, donc on les voit à travers une vitre. Mais sans le contact et sans la proximité complète.
C'est
aspect
difficile.
De quarantaine, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'on sait que la famille nous a et les amis nous ont accompagnés tout au long de la préparation. Donc ils nous portent aussi. Et si vous entendez ma mère, qui est quelqu'un qui, bien évidemment, avait peur que sa fille monte au sommet de la fusée, j'ai réentendu sa façon de parler. Elle savait que je l'emportais avec elle, mais elle m'a accompagnée. Et tout le monde nous accompagne à ce moment-là, et on les emmène avec nous.
Dites-moi, Soyouz, c'est comme partager un lit simple ou un lit double à trois, on va dire. On a un peu ratatiné quand même.
Oui, c'est l'avant d'une petite voiture, d'une petite Fiat 500.
C'est une certaine proximité quand même dans la capsule Soyouz.
Oui, il y a trois sièges, puisqu'il y a donc trois astronautes. Et on s'installe là quand même quelques heures avant le décollage, avant la mise à feu des moteurs. C'est là où j'écoutais Rocketman, une fois que tous les paramètres avaient été vérifiés. Et puis, c'est un peu inconfortable, effectivement, la position. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des scaphandres réalisés sur mesure, pour qu'on ne soit pas trop gêné au niveau des articulations, genoux et coudes, pendant ces longues périodes d'immobilité. Et ça n'est qu'une fois injecté en orbite, vérification de la pressurisation, qu'on peut se débarrasser de ce scaphandre et commencer à bouger un petit peu.
Alors justement, j'allais vous demander quelles sont les sensations et qu'est-ce que vous voyez quand vous décollez ?
Au moment du décollage, installé dans la capsule Soyouz, on ne voit rien parce qu'il y a une coiffe qui recouvre la capsule, parce qu'il va falloir, avec l'élévation de la fusée, la propulsion, traverser les couches denses de l'atmosphère. C'est une fois qu'on a traversé les couches denses de l'atmosphère, après 60-70 km, que cette coiffe va séparer et que là, les hublots sont accessibles. Alors, il faut un petit peu se contorsionner dans un vaisseau Soyouz pour regarder par le hublot quand on est dans la phase ascendante, mais ça vaut le coup de le faire.
Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez la Terre comme
la
ça
La Terre qui s'éloigne. Et on s'extrait en vertical. Alors, ça ne dure pas très très longtemps parce qu'ensuite, la trajectoire fait que vous allez vous mettre en vol orbital. Et ensuite, bien évidemment, vous êtes en orbite à 200 km autour de la Terre. Et c'est vrai que là, une fois débarrassé de mon scaphandre, à un moment où j'ai pu regarder tranquillement par le hublot, j'ai eu le bonheur de voir une aurore. Je n'en avais jamais vu de ma vie. Et c'est la première chose que j'ai vue, ce magique rideau vert par le hublot qui flottait au-dessus de la planète Terre. Et j'ai encore cette image-là dans les yeux.
Et physiquement, est-ce qu'on sent une sorte de pression ? Vous nous parliez d'une vitesse vertigineuse tout à l'heure.
Pendant la phase dynamique de vol, il y a trois étages de propulsion successifs. À chacun de ces étages, on va jusqu'à 4 G, donc 4 fois le poids de son corps écrasé dans son siège. Mais 4G, c'est supportable et on y est entraîné. Donc voilà, ça c'est la phase dynamique du vol. Et ensuite, avant l'amarrage, quand on est dans ce bloc orbital en microgravité, sans trop de volume, on peut commencer à adapter ses mouvements, à voir ce que ça veut dire que de se pousser contre une paroi, comment on va propulsé.
Bien sûr.
Il y a une adaptation du geste qui est nécessaire et qui va nous être bien utile quand on sera à l'intérieur de la station.
Est-ce qu'il y a du bruit au moment du décollage ?
Il y a du bruit, il y a un petit peu de vibration. Oui, bien sûr, il y a du bruit.
Il y a des flammes, je sais pas.
Il y a des étincelles à travers les hublots, une fois que la coiffe est partie, parce qu'il y a plein de pyrotechnie qui sépare les étages. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des phases de surveillance de l'état de pressurisation à l'intérieur du vaisseau et qu'on garde son scaphandre jusqu'à ce qu'on soit sûr qu'il n'y a pas eu de problème de dépressurisation par la pyrotechnie. Oui, il y a tout ça. Il y a tout ça pendant la mise en orbite. Il y a ça encore plus, je dirais, de degrés 10 fois plus, au retour. C'est très impressionnant.
On atterrira tout à l'heure. Mais pour l'heure, on est en vol avec vous. On va bientôt donc s'amarrer à la station spatiale Mir. Nous attendent les astronautes Yuri Osachev et Yuri Onufrienko et une femme, Shannon Lucide, qui était déjà sur place quand vous êtes arrivés, vous. C'était le 18 août 1996. Vous allez passer 16 jours avec eux en mission. La vie en orbite et votre mission, c'est tout de suite dans Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
C'est l'astronaute Claudie Aigneret qui est votre invitée dans Jour J ce soir. Et grâce à vous, Claudie, nous avons volé sans encombre jusqu'à la station spatiale Mir. Le vol a duré 48 heures avant que nous puissions donc nous amarrer à cette station spatiale. Comment ça se passe d'ailleurs, l'opération? C'est compliqué ou pas? Parce que moi, j'ai entendu dire, vous allez peut-être m'expliquer, le Soyouz s'arrime à Mir lors de sa 34e orbite. Ça veut dire quoi?
Alors, vitesse de satellisation 28 000 km/h. On est injecté en orbite après 8 minutes 45 de propulsion à une orbite de 200 km/h. La station, elle, étant à 400. Donc, on va enchaîner des orbites et des corrections sur les orbites de façon à se rapprocher des 400 km où se trouve la station spatiale. À 28 000 km/h, à 400 km en orbite. Une orbite, c'est 90 minutes. Un tour de Terre en 90 minutes. Donc, on fait quand même 16 fois par jour, le tour de la Terre. Le sujet, c'est d'économiser l'énergie au maximum dans ces corrections d'orbite pour rejoindre la station. Et puis ensuite, ce sont deux véhicules qui vont l'un et l'autre à 28 000 km/h. Donc il faut annuler la vitesse relative.
C'est ça.
Pour arriver tout doucement à quelques centimètres par seconde pour faire l'amarrage dans le cône d'amarrage de la station spatiale. Tout ça est en mode automatique. Quand tout va bien, ça arrive assez régulièrement. Ça arrivait en 96 assez régulièrement qu'on doit reprendre un manuel. Ça n'a pas été le cas pour ma mission. J'ai trouvé magique, digne de science-fiction, l'approche de la station spatiale. Parce que vous la voyez à distance comme un petit point lumineux sur un cosmos noir. Et au fur et à mesure, vous vous en approchez avec votre capsule. Et là, vous découvrez les panneaux solaires illuminés. La station Mir en 96, c'était une énorme station avec plein de modules. Donc je l'ai vraiment vécu comme un moment magique de science-fiction, cette approche à la station. Ensuite, les procédures d'amarrage, la jonction et le contrôle, là encore, d'une pression identique à l'intérieur de votre capsule, à l'intérieur de la station, avant qu'on vous donne l'autorisation d'ouvrir la porte, l'écoutille.
Et là, vous retrouvez donc vos collègues, astronautes qui vont partager avec vous une partie de la vie en orbite. Certains resteront, d'autres descendront avec vous. On y reviendra dans un instant. Revenons à la station Mir, si vous le voulez bien. Il paraît que ça sent très mauvais dans la station. J'ai appris, alors je vais citer Steve Pierce, qui est un chimiste, alors en même temps je ne sais pas si c'est la réalité. Il parle d'un parfum de pieds moites mélangé aux odeurs corporelles, une odeur de dissolvant pour ongles et de vapeur d'essence. Ça pue dans Mir, ça pue.
J'ai pas ces souvenirs-là, j'ai souvenir d'humidité, de chaleur.
On parle de moisissure aussi.
Ouais, donc c'est plutôt sur ces aspects-là et on devait être attentif à nettoyer effectivement cette humidité. Mais c'est une vieille station déjà qui était en orbite depuis longtemps.
Oui.
Sur les odeurs, bon, j'ai pas de souvenirs comme ça. Après, on avait tout ce qu'il fallait pour assurer une hygiène corporelle. Par contre, il n'y a pas d'odeur de la Terre à bord.
Alors,
et la première chose au retour qui m'a frappée, qui m'a fait dire, j'ai été un être humain en orbite pendant quelques jours, mais je suis vraiment un terrien. C'était l'odeur de la Terre à l'ouverture de l'écoutille, au retour, après l'atterrissage. Je dirais que l'atmosphère à bord est quand même tout à fait surveillée, recyclée, purifiée. C'est assez aseptisé, moi je dirais, je le retiens comme ça. Aseptisé en dehors de la chaleur. Et il n'y a pas ni les bruits de la Terre, ni ces odeurs de la Terre, du sol, des feuilles.
Okay.
On arrive d'ailleurs avec de la nourriture fraîche quand on arrive avec notre vaisseau. Et la première chose que font nos collègues à bord, peut-être moins aujourd'hui, mais à l'époque, je me souviens, c'est de sentir cette odeur des tomates, des pommes, de ce qu'on a pu monter avec vous pour les premiers jours du vol.
Ouais, je comprends, parce qu'effectivement, on est dans des espaces complètement différents qui finalement n'ont rien à voir. Mais nous, on ne se rend pas compte des odeurs qui nous entourent en fait sur Terre.
Donc,
alors,
c'est particulier.
Quand on est en orbite, comment est-ce qu'on dort? Comment est-ce qu'on mange? Comment est-ce qu'on se lave?
On dort dans des cabines et des sacs de couchage, enfin des cabines, un petit coin. Moi, j'étais dans un nœud d'amarrage pour préparation des sorties extravéhiculaires, mais c'était très confortable. J'avais installé mon petit coin, un sac de couchage fixé à la paroi. Parce
avec
que sinon,
des scratchs.
Vous vous endormez à un endroit et vous vous réveillez ailleurs. On n'a pas de douche, bien évidemment, parce que faire couler l'eau du haut vers le bas, ça se fait pas. Puis qu'est-ce que c'est que le haut vers le bas quand on est en microgravité? Donc ce sont des serviettes qu'on mouille avec de l'eau qu'on récupère. C'est de l'eau qu'on peut aussi bien avoir pour faire le thé ou réhydrater son potage ou ses pâtes, bien que pour humidifier ses serviettes. Mais c'est tout à fait confortable. Shampoing sec, des petits fours pour faire réchauffer. Donc nourriture lyophilisée ou nourriture en boîte de conserve. Les toilettes, il y a un système d'aspiration et de ventilation qui fait que tout marche bien et qu'il n'y a pas de soucis. Ça, c'est pour la vie de tous les jours. Après, c'est un cycle de vie calé sur les horaires du sol, parce qu'on ne va pas faire en 90 minutes, 45 minutes de jour, 45 minutes de nuit. Donc bien évidemment sur des horaires de 24 heures. Et puis surtout, la mission scientifique et toutes ces expériences à mettre en place et en essayant de grappiller un petit peu de temps sur le sommeil pour les regarder par le hublot.
Et bien justement, il y avait également des moments de méditation en regardant la Terre, vous venez de le dire. Je vais vous demander maintenant de nous décrire ce spectacle incroyable, Claudie Aigneret. En fond, Marc Hubisset, notre réalisateur, va nous mettre ce morceau de la Calas que vous écoutiez en contemplant justement notre planète. On vous écoute.
De l'entendre me projette de nouveau dans la station spatiale, ce Castadiva de la Calas. C'est quelque chose que j'ai écouté avec ce corps, comme je le disais, flottant, libre, ne pesant plus rien, en regardant par le hublot, en essayant de consacrer une orbite, ou parfois plus, un peu plus de 90 minutes, à voir la Terre qui défile. Alors par le hublot, à 400 km, on voit à peu près 2500 km de Terre, mais on la voit avec ses couleurs changeantes d'un continent comme l'Afrique qui est rouge-orangé à des choses vertes, la planète bleue et blanche, bien évidemment elle est bleue, 75% de sa surface sont des océans, on voit les lumières des villes pendant la période de la nuit. C'est magnifique, fascinant, émouvant de contempler la planète comme ça, parce que tout autour, c'est le cosmos noir. Alors vous pouvez aller regarder aussi, et je pense qu'écouter la Calas aussi comme ça, le côté cosmos, les milliards d'étoiles dans ce cosmos infini. Et déjà, c'est magique, mais je pense que accompagné par cette voix extraordinaire, c'est quelque chose qui m'a plongé effectivement dans une contemplation que je n'ai pas réussi à retrouver par ailleurs au sol à d'autres occasions.
On se retrouve tout de suite dans Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
Nous sommes à bord de la station orbitale russe Mir avec Claudie Aigneret, notre invitée jusqu'à 21h, première femme française à être allée dans l'espace. Vous ne sentez plus votre corps, et bien c'est normal, vous êtes en apesanteur. D'ailleurs, est-ce qu'on ne sent plus du tout son corps, Claudie Aigneret, ou est-ce que finalement on le sent, mais si léger, si doux, si alangui presque, non?
On le sent très léger, bien sûr, on est relaxé, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir des contractions musculaires pour tenir sa tête ou pour soulever des poids, puisqu'il n'y a plus de poids, il y a des masses. Et ça, par contre, avec l'inertie des déplacements, il faut contrôler ses gestes. Donc, c'est un corps qu'il faut apprendre à maîtriser dans cette nouvelle configuration d'adaptation pour être efficace dans son activité. Comme on doit aussi contrôler le fait que votre calepin, votre petit crayon, il faut le mettre sous velcro, sous scratch, pour la manip scientifique que vous allez avoir à réaliser. Donc effectivement, ce sont des paramètres très différents qui sont très agréables et qui peuvent même nous amener à avoir des sensations d'un enfant qui se fait plaisir avec un corps. Moi, comme médecin, c'est quelque chose qui me persuadé qu'on a des capacités d'adaptation insoupçonnées de son corps et qui peuvent être révélées dans des environnements différents. Et je trouvais ça absolument fantastique d'avoir cette capacité à s'adapter, à trouver de nouvelles références, à trouver de nouveaux mécanismes. Je trouve que c'est intéressant, mais qu'il faut contrôler et qu'il faut protéger, parce qu'à un moment donné, on revient sur Terre. Donc, ces muscles relâchés qui peuvent provoquer une atrophie du muscle, hein, comme on ne l'utilise pas suffisamment, et qui peuvent provoquer un os moins résistant, parce qu'il subit moins de contraintes, tout ça, c'est parfaitement adapté à la microgravité, ça n'est pas du tout un retour. D'où l'exercice physique, ce qu'on appelle les contre-mesures, et la nécessité de bien connaître ces paramètres, c'est une partie de cette recherche en physiologie, science du vivant, tout autant qu'en médecine, pour préparer des missions plus lointaines ou pour mieux comprendre les mécanismes. Et moi, en tant que rhumatologue, j'ai compris plein de choses à bord que je n'avais pas complètement imaginées dans mes études.
Alors justement, c'était ça l'objet de votre mission ?
J'avais des expériences dans le domaine des sciences du vivant, à la fois physiologie et médecine, en cardiovasculaire, parce que là aussi, il y a des répartitions de fluides dans l'organisme qui font qu'il y a des mécanismes d'adaptation intéressants à étudier. Mais les sciences du vivant, ce n'est pas que l'organisme humain. Donc j'avais emmené avec moi des pleurodelles, qui sont des salamandres. C'était une expérience de fertilisation. On les a fait pondre pour voir comment un œuf, c'est de la biologie du développement, comment un œuf va se développer alors qu'il n'y a pas le facteur de gravité qui est celui qui structure sur Terre. J'avais des expériences en physique des fluides, en physique des plasmas. Il y a une recherche très particulière qui est microgravité. On ne sait pas s'affranchir de la gravité sur Terre. Donc le seul laboratoire où les scientifiques peuvent tester ces expériences, c'est là-haut, dans ces laboratoires en orbite. Plus, bien évidemment, toute la technologie, les développements d'ingénierie, le sujet des radiations. Enfin, il y avait un programme scientifique absolument merveilleux, fait avec nos collègues français et nos collègues russes, bien évidemment. Et vous l'avez signalé, Shannon Lucid, une américaine, c'était le début de cette coopération, là aussi ouverte, qui va aboutir à la Station Spatiale Internationale, qui depuis 20 ans aujourd'hui est occupée en permanence.
Voilà l'ISS où vous serez allé quelques années plus tard, en 2001. Claudia Aigneret, comment ça se passait une journée en fait dans la Station Spatiale Orbitale Mir? Parce que vous aviez non seulement votre mission, mais il y avait aussi la vie quotidienne. Est-ce qu'on a des horaires de bureau, de travail? Comment est-ce qu'on organise sa journée et pour soi et avec ses collègues aussi?
Alors c'est un bureau un petit peu particulier, hein. On n'y va pas en métro et quand on ouvre la fenêtre, c'est pas tout à fait le même paysage.
C'est un peu du télétravail dans l'espace, quoi.
Télétravail parce qu'on est en relation avec le sol et qu'effectivement il y a les équipes au sol d'ailleurs qui nous donnent le top départ de la journée. On a un planning sur la semaine et roulant tous les jours, on le remet à niveau par rapport au programme expérimental. Donc vers 7h du matin, on doit faire rapport au sol, des paramètres de la station, de ce qui s'est passé de particulier, et on commence le programme d'expérience. Tout ça entrecoupé, bien évidemment, de temps, je dirais, de convivialité. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut d'ailleurs les créer, la convivialité entre les membres de l'équipage, parce qu'on est souvent occupé chacun à son poste de travail, mais c'est important de le vivre ensemble. Donc, des repas, le programme expérimental, le lien avec le sol, les liaisons radio-amateurs à l'époque avec les écoles, les universités. Aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'il y a plein de moyens. Ouais. Les radios amateurs, ça fonctionne depuis très très longtemps. Ouais. Et c'était formidable d'avoir ces liaisons. Par contre, pas de SMS, pas d'Internet à l'époque. Ça surprend toujours les jeunes générations aujourd'hui, qu'à cette époque-là, ça n'était pas possible.
Pas d'Instagram.
On parlait d'émission au retour. Ah ben non, pas d'Instagram. À peine quelques liaisons vidéo et puis des radios qui crachotaient.
Est-ce que vous avez pu joindre vos proches depuis la station?
Alors, pas mes proches, un proche. Oui,
okay.
Mais le reste de la famille, non, pas du tout.
D'accord, on ne peut pas passer un coup de fil comme ça. Bon, d'ailleurs, lors de votre deuxième mission, là, on va faire un petit bond dans le temps en avant. Cette fois-ci, c'était sur l'ISS, la Station Spatiale Internationale, en 2001. Quelqu'un a cherché à vous joindre, on l'écoute.
Allô ? Allô ? Je crois que je vous entends. En tout cas, beaucoup de Français, à travers moi, ont envie de vous dire leur admiration, mais aussi leur affection pour ce que vous faites.
Alors, on aura reconnu le Premier ministre de l'époque, Lionel Jospin. Il pensait vous parler en direct, mais non. Dans la réalité, en fait, c'est un message qui a été enregistré et qui vous est parvenu plus tard.
En fait, le sujet avait été, je l'ai expliqué tout à l'heure, au moment où on doit ouvrir l'écoutille entre le vaisseau qui nous amène et la station, ouais. Il faut vérifier que les pressions sont égalisées. Et on a eu beaucoup de mal à égaliser, je ne sais plus où était le problème. Donc, ça a tardé pour la liaison. Et on s'est retrouvés en dehors du champ de l'antenne de réception. Donc, ça a compliqué un tout petit peu cette conférence de presse, cette interaction.
Votre mission Mir, pour revenir à cette mission-là, elle aura duré 16 jours. Ça passe trop vite, hein. Vous nous l'avez dit il y a un instant, en fait. On a l'impression que ça se passe en un éclair. Déjà 15 jours de vacances l'été, c'est un truc de fou. Donc j'imagine que 16 jours dans l'espace, c'est...
Oui. Ma frustration, enfin j'en ai plusieurs, même si j'ai plein de satisfactions, c'est de ne pas avoir fait une mission de longue durée.
Ouais.
Ah, bravo Thomas et Mathias qui va le rejoindre dans quelques semaines, de ne pas avoir fait de sortie extravéhiculaire. Mais vous imaginez la sortie extravéhiculaire.
Bien sûr.
Je vous ai raconté l'entrée dans la station, la sortie de la station. Et puis je n'ai pas marché sur la Lune.
Ah, mais ça, on ne sait jamais. Écoutez, dans un instant, on redescend en tout cas sur Terre avec vous. Une autre épopée, on l'imagine, pas de tout repos, c'est toujours à bord de Soyouz. Atterrissage dans un instant dans Jour J.
Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
C'est le 2 septembre 1996 que la capsule Soyouz TM-23 ramène Claudie André D. et l'équipage descendant. Il y avait Yuri Anafrienko, commandant de bord, Yuri Usachev qui était ingénieur de bord, Claudie. Et donc Soyouz se pose au Kazakhstan à 9h41min40s. Est-ce qu'on a le cafard quand on quitte la station Mir ?
On est sûrement, oui, un petit peu nostalgique de se dire qu'à un moment donné, voilà, on va refermer l'écoutille. On est hyper concentré, hyper vigilant, parce qu'on a été là pour faire une mission scientifique. Il faut ramener les échantillons, il faut tout ramener. Donc, il faut bien s'installer dans le vaisseau pour assurer la sécurité. Et on parlait tout à l'heure de l'apprentissage, de l'entraînement pour la mise en orbite. On n'a pas du tout d'entraînement pour le retour. Donc effectivement, jamais on a quelque chose qu'on va désorbiter pour tester. On a quand même des petits stages de survie, au cas où votre capsule n'atterrisse pas à l'endroit où on vous attend, dans un lac. Effectivement, il faut enfiler le scaphandre qui va vous permettre d'être imperméable dans l'eau où vous allez vous jeter. Enfin, ce sont des moments dont je garde maintenant de merveilleux souvenirs, mais qui étaient durs à vivre à ce moment-là, ces stages de survie. Donc on prépare tout, on s'installe, on met nos scaphandres, on dit au revoir. Oui, on ferme l'écoutille.
Ouais.
On se désamarre, on s'éloigne un petit peu de la station. Et quand on est suffisamment éloigné, on va freiner de cette vitesse de 28 000 km/h de façon à rentrer vers la Terre et pas continuer à tourner en orbite autour de la Terre.
Ouais.
Donc on va rentrer. Et en rentrant, on va traverser les couches denses de l'atmosphère. Et là, ça frotte, ça ralentit, ça chauffe. Une espèce de plasma qui se fait autour du vaisseau.
Cogne un peu, on est secoué.
Après avoir traversé, on est secoué. Mais là, par le hublot, par exemple, on voit très bien que ça chauffe. Et que, Dieu merci, on a un bouclier thermique qui nous permet d'éviter tout désagrément pour ça. Donc, il y a une période aussi de plasma où les communications ne passent pas avec le sol. Donc on se dit, tout s'est bien passé, on a vérifié tous les paramètres, on est sûr qu'on est rentré avec la bonne impulsion, on est bien en train de rentrer et ne pas rebondir sur l'atmosphère ou de rentrer à l'endroit où on nous attend. Et puis ensuite, il y a ce déploiement effectivement des parachutes pour continuer à freiner après ce premier freinage par l'atmosphère. Et là, c'est vrai que ça bouge beaucoup. Vous avez un système vestibulaire qui sont les petits capteurs que vous avez dans les oreilles qui vous permettent de contrôler votre posture. Ils ont fonctionné pendant 15 jours sur un mode microgravité. Et là, d'un seul coup, vous les amenez à fonctionner sur un mode grande amplitude de déplacement, vitesse, accélération et facteur de gravité. Et donc, ça, c'est perturbant. Et j'ai ce souvenir-là de ma première mission, d'avoir été quand même un peu surprise par la virilité de ce moment de retour. Et que, par contre, j'ai apprécié seconde par seconde à ma deuxième mission spatiale.
Oui, ça, j'imagine, parce que vous l'aviez déjà vécu.
Et on arrive ralenti au maximum, sous une énorme coupole de 1000 mètres carrés de parachute. Et on allume quand même des petites rétrofusées, hop, pour amortir l'impact.
Alors,
avec le sol.
On se pose comme une plume ou ça cogne quand même sur la Terre ?
C'est assez sportif.
Voilà. Ça secoue, quoi.
L'impact, ça, ouais. Ça secoue, pour peu qu'on se pose bien à plat, ou qu'il y ait du vent et que le parachute vous emmène à faire basculer la capsule.
Évidemment.
Mais les équipes de secours qui sont là, qui arrivent très vite, qui ouvrent les coutils, qui vous sortent et qui vous aident.
Alors, qu'est-ce qu'on ressent quand tout à coup, on sait que ça y est, on est sur Terre, ils ouvrent les coutils, vous voyez, là pour le coup, des terriens, qui n'ont pas eu cette chance d'aller dans l'espace. Comment est-ce que vous ressentez votre corps qui, depuis 16 jours, a vécu de façon extrêmement légère. Racontez-nous un petit peu tout ça.
On ressent la pesanteur, vous avez tout à fait
c'est
raison.
C'est lourd.
Là, d'un seul coup, la tête avec le scaphandre, c'est lourd à porter. Vous êtes un petit peu fatigué, déconditionné, même pour les vols de courte durée. Ça prend quelques instants à récupérer tout ça. Et puis la nuit précédente, elle a été courte, de façon à tout préparer. Donc, ça c'est quand même un petit peu lourd à porter pour le retour. Donc on vous aide, on vous extrait. Et là, effectivement, tout redevient pesant. Un t-shirt, c'est lourd. Un verre d'eau, c'est lourd. Votre tête, elle est lourde. Soulever le bras. D'un seul coup, on se réaffronte à ce champ de gravité. Mais on y retrouve aussi tous ceux qui nous ont manqué, qui nous ont accompagnés. On retrouve les odeurs de la Terre. Et puis, on retrouve des sollicitations multiples. Et la réhabilitation au retour, elle est intense, là aussi.
Évidemment. Aujourd'hui, Mir n'existe plus. Hein. Comment est-ce qu'on fait disparaître une station spatiale? Ça vous a... Vous saviez que Mir était amené à disparaître, l'ISS a pris le relais, mais comment est-ce qu'on fait disparaître une station spatiale et surtout, en fait, qu'est-ce que l'on ressent quand on y a passé autant de temps?
Alors, la station était effectivement avec plusieurs modules. Ces modules ont été désamarrés, séparés, préparés par des équipages jusqu'en 99 ou 2000. Le dernier équipage en 2000 avait tout préparé. Donc, des séparations des modules, cette impulsion de freinage, et puis ces modules qui vont se détruire en passant dans l'atmosphère, parce qu'il n'y a pas de protection thermique à ce moment-là. Et donc, effectivement, ça se casse en morceaux, mais tout ça est détruit dans le passage dans les couches denses de l'atmosphère. Et donc, il n'y a pas de retombée. Et puis, s'il y avait un tout petit bout de retombée, on vise des zones où il n'y a personne, il n'y a pas de danger. Par contre, j'ai assisté à ça avec les équipes. C'est vrai qu'on avait tous le cœur très très gros.
Ouais, parce que c'est la fin d'une époque.
C'est la fin, c'était des dizaines, centaines d'équipages qui étaient passés par là. C'était un endroit où on avait travaillé, vécu ensemble, où on partageait des choses. Et le début de la construction de la Station Spatiale Internationale, maintenant voilà, les 20 ans y sont. Mais je pense que quand on envisagera là aussi de se séparer de la Station Spatiale Internationale, c'est de la coopération extraordinaire qu'on vit dans ces moments-là, dans cette infrastructure très, très complexe. C'est triste de s'en séparer.
Merci beaucoup, Claudia Nuret, d'avoir accepté mon invitation. Merci pour ce voyage extraordinaire et ces souvenirs. On sent que vous êtes intarissable sur ce sujet. Et puis aussi, merci à vous tous qui nous avez écoutés et qui avez participé ce soir à ce voyage inoubliable.